à la recherche de la lumière, et j'ai intitulé ma prédication un combat. Et puis, vous avez vu que j'ai mis un fond noir avec cette lumière qui tâche d'éclairer. Ça sera un peu l'axe dans lequel on va méditer ce matin. Parce que, effectivement, nous les chrétiens du 21e siècle, comme les premiers chrétiens, celles et ceux par qui, en fait, on est là, hein, le témoignage des premiers chrétiens, leur foi fait qu'on est là, encore réunis ce matin, et qu'on bénéficie de cette lumière. Parce qu'ils ont suivi cette lumière qui était là, ils l'ont témoigné et ils nous l'ont transmise jusqu'à maintenant. Et ils en avaient bien besoin parce qu'ils étaient dans un environnement qui était compliqué, ces premiers chrétiens, et notamment les premiers chrétiens qui étaient du temps de l'Apocalypse. Parce que, contrairement à l'idée reçue, l'Apocalypse, ce n'est pas la fin des temps, puisqu'il a été écrit il y a déjà 2000 ans, ce livre. Alors, c'est vrai que tu as tout à fait raison. Quand on a pris ce thème avec mes collègues à la recherche de la lumière, j'avais fait une prédication il y a quelque temps sur l'Apocalypse. Je me suis dit, c'est bon, ça m'a coûté assez d'énergie, je la laisse de côté, je laisse ce livre de côté. Puis là, c'est vrai que je me suis senti poussé assez fortement à continuer notre méditation dans cette révélation qui nous est offerte. Et cette révélation ne nous est pas offerte simplement en tant qu'individu. C'est vraiment, et particulièrement dans le livre de l'Apocalypse, une révélation qui est offerte à la communauté, aux églises. Ce livre, il commence par des lettres qui sont écrites à sept églises, et puis qui nous sont, à travers ces sept églises, qui signifient la plénitude, la globalité, qui nous sont aussi, je crois, adressées à nous, pas en tant qu'individus, mais vraiment qu'on puisse recevoir ces lettres, ce don, en tant qu'église, en tant que communauté de croyantes et de croyants. Et on peut vraiment en être reconnaissant de tout cela. Et là, je reprends les paroles qui étaient aussi dans la bouche de Christian tout à l'heure. Apocalypse 5, 13, « Et toutes les créatures, dans le ciel, sur la terre, sous la terre et sur la mer, tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient, à celui qui est assis sur le trône, c'est-à-dire à Dieu, et à l'agneau, c'est-à-dire Jésus-Christ, son Fils, la bénédiction, l'honneur, la gloire et le pouvoir à tout jamais. » Et c'est l'ensemble des croyants, c'est-à-dire l'Église, qui prononce et qui proclame ces paroles céleste. On est dans un texte lumineux. On est dans un texte qui nous élève, une louange comme on a pu le vivre tout à l'heure, qui nous fait un peu sortir de la nappe de brouillard puis qui nous fait aller en dessus. On est presque à Saint-Sergle. On passe avec le petit train et on est plus proche de la lumière, on est illuminé. J'y étais hier, je vous dis, ça fait du bien. On a besoin d'être encouragé dans l'environnement dans lequel on a besoin de se serrer les coudes, on a besoin d'être encouragé par la parole et aussi par une si belle assemblée réunie pour dire « nous croyons dans ce Dieu-là et nous voulons lui rendre un culte, nous voulions faire monter notre louange vers lui ». Et pourtant, si on s'y plonge plus profondément, on se rend compte que ce livre de l'Apocalypse, il est difficile d'accès. Puis là, j'ai pris une image, je ne sais pas si vous voyez, sur le côté de la Bible, il y a comme des espèces de fixations pour bien fermer la Bible. Puis mon grand-papa, je ne sais pas si vous avez aussi des Bibles comme ça dans vos familles, mais mon grand-papa, il nous montrait toujours cette Bible parce qu'il avait une Bible un peu de ce type-là. Et puis pour nous, on était, enfin moi en tout cas, j'étais fasciné par ces ouvertures qu'on pouvait essayer tant bien que mal de faire fonctionner. Et puis là, c'est un peu la même chose. Et même dans l'Apocalypse, et c'est ce qu'on va aborder ce matin, il y a des espèces d'ouvertures que l'on appelle, un mot qu'on n'utilise plus très souvent, des sceaux, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est là pour fermer un livre précieux. Et puis ces sceaux, ils sont amenés à être ouverts. Mais on se rend compte que même dans la révélation même, ce n'est pas si facile que ça de les ouvrir. Puis là, ça nous pose un peu une question, mais qu'est-ce qu'il veut Dieu? Il veut nous révéler des trucs, mais en fait, ce n'est pas si facile que ça de les comprendre, de les trouver, même d'ouvrir simplement le livre qui nous révèle la volonté de Dieu. Et là, il y a déjà une grande vérité, c'est qu'avec Dieu, ce n'est pas comme ça en claquant des doigts qu'on aura tout qui va nous tomber sur la tête. Il y a une forme de combat, il y a une forme de combat même spirituel, et puis c'est ce que nous livre cet Apocalypse, c'est que toute cette lumière ne fait pas plaisir à tout le monde. On peut dire les choses comme ça. Il y a des forces contraires qui sont là. Il y a des forces contraires qui sont là, bien présentes. Il y a une réalité d'un combat des ténèbres contre les lumières. Et c'est la réalité, finalement, dans laquelle on est souvent plongé. Alors, prenons vraiment, chers frères et sœurs qui sommes croyants, cette révélation comme un don, même si on doit un peu gratter, même si on doit être un peu bousculé par cette révélation, même si elle ne tombe pas forcément toujours facilement dans nos cœurs. Et pour nous, notre rôle, c'est que nous soyons disponibles et disposés à creuser, à méditer, à mâcher la parole. Et je crois que votre présence ce matin signifie que vous l'êtes. Alors, on peut y aller, le cœur confiant. Apocalypse 6, verset 1. Et je regardais, c'est juste à la suite de la louange que l'on vient d'entendre. Ils finissent la louange céleste dans les cieux. Et là, l'apôtre Jean voit ce qu'il voit maintenant. Je regardais quand l'agneau, c'est-à-dire le Christ, ouvrit un des sept sceaux, ces fameux sceaux qui ferment le livre. Et j'entendis l'un des quatre êtres vivants dire d'une voix de tonnerre, « Viens !» Et ensuite arrivent quatre chevaux qui sont là et qui viennent révéler différents malheurs. Différents malheurs parce qu'il y a effectivement ce combat des forces des ténèbres qui ne veulent pas que ce livre soit ouvert. Je ne vais pas tout lire, mais on va directement passer au sixième sceau avant que le septième ne soit ouvert. Voici ce que je vis, verset 12 du chapitre 6. Voici ce que je vis quand il ouvrit le sixième sceau. Il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin. La lune entière devint comme du sang. Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre comme lorsqu'un figuier secoué par un grand vent laisse tomber ses figues. Quand je vous disais qu'il y avait un combat entre les forces des ténèbres et les forces de la lumière, il est parfaitement illustré dans ce sixième sceau. Vous avez vu que c'est tous les astres de lumière qui tombent les uns après les autres. Il y a vraiment là une réalité, une attaque assez forte sur ce qui peut être source de lumière. C'est la réalité. Le ciel se retira tel un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent enlevées de leur place. Toute la création, finalement, subit les foudres de ces forces du mal. Les rois de la terre, les dignitaires, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous, esclaves et hommes libres, allèrent se cacher dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, « Tombez sur nous, cachez-nous de celui qui est assis sur le trône et de la colère de l'agneau, car le grand jour de leur colère est venu, et qui pourrait tenir debout ?» L'agneau, ensuite, défait la septième attache du livre. À ce moment-là, il y a dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Et je vois les sept anges qui se tiennent devant Dieu, ils reçoivent les sept trompettes. Un autre ange vient se placer près de l'autel, il porte un brûle-parfum en or, et il reçoit beaucoup de parfums. Il les offre donc avec les prières de tous ceux et celles qui appartiennent à Dieu, sur l'autel en or qui est devant le siège royal. De la main de l'ange, la fumée des parfums monte devant Dieu avec les prières de tous ceux qui lui appartiennent. Amen. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai fait un petit saut, puisqu'il y a tout un chapitre, le chapitre 7 entre deux, entre le sixième et le septième sceau. On va revenir ensuite sur ce chapitre 7. Là, on se concentre sur ce qui se passe dans ces images assez terribles. Le chiffre 7, je vous ai dit, c'est la plénitude, mais c'est aussi la plénitude des malheurs, finalement. Il y a sept sceaux, il y a sept trompettes ensuite. Et finalement, au chapitre 16 de l'Apocalypse, il y a sept coupes et qui parlent symboliquement des malheurs qui affectent le monde. Quand nous sommes dans un environnement troublé, ce n'est pas visiblement une surprise pour Dieu. Ce n'est pas une surprise pour les premiers croyants non plus. Et là, sur ce septième sceau, c'est assez interpellant la réaction qu'il y a dans le ciel. Au moment où on continue d'ouvrir cette révélation, qu'est-ce qui est là ? Un silence d'une demi-heure. Il y a quelque chose de mystérieux. Il y a quelque chose qui nous échappe. Et Jean qui est là, qui admire finalement cette révélation qui est devant lui, il est plongé dans ce même silence. Et parfois, je crois qu'on est aussi plongé dans ce même silence si on étudie ou si on prend en compte vraiment ce qui se passe autour de nous. On a un peu de la peine à suivre. On a un peu de la peine à mettre tout ça ensemble dans notre petite tête, tu l'as un peu dit dans ta prière, par rapport à tout ce qu'on doit appréhender dans notre monde. Et moi, je trouve que ce silence, il est interpellant. Ce silence aussi qui dit que l'on s'attend à Dieu qui va ouvrir ce septième sceau. Parce que seul Jésus peut ouvrir ce sceau, hein, c'est ce qui nous était dit dans le chapitre 5. Seul lui a cette force et cette capacité de l'ouvrir. Et au milieu de tout cela, qu'est-ce qu'il y a pour nous en tant que croyants? Et c'est toujours cet aller-retour qui est intéressant dans l'Apocalypse, c'est qu'il y a d'une part la description de ces malheurs, de ces éléments, ces forces qui se déchaînent, et d'un autre côté, la réalité des croyants et de leur attitude par rapport à tout cela. Et qu'est-ce qu'ils font, les croyants? Ils font monter leur prière vers Dieu, qui les reçoit comme un parfum agréable et parfait. C'est encourageant, ça, hein? Quel est notre rôle, finalement? C'est d'être cette communauté priante qui fait monter ses prières vers Dieu, qui dit par là, « Oui, Dieu, tu es vivant, tu tiens toutes choses dans tes mains, et je continue, et surtout nous continuons en tant que communauté, à croire que tu tiens toutes choses en main. » C'est une forme de résistance en se disant, on ne va pas se laisser balloter et envahir par le noir, mais on va rester confiant dans ton action et dans ta sainteté. Parce qu'effectivement, ce septième sceau, puis j'ai sué longtemps pour savoir ce que c'est, parce que le texte ne le dit pas, c'est en fait tout le reste de la révélation, si vous le lisez à partir du chapitre 8 jusqu'au chapitre 22, c'est l'ensemble de ce qui reste de l'Apocalypse. Donc ça, je vous laisserai le lire, parce qu'on n'a pas le temps de le lire ce matin. Même si Marie est une excellente conteuse, j'ai décidé de ne pas faire la lecture complète. Mais je vous encourage à essayer d'y aller. Si vous avez des questions, là je prends un peu des risques, vous pouvez essayer de venir vers moi, puis on peut au minimum en discuter ensemble. Je ne vous dis pas que j'aurai toutes les réponses. Mais toujours est-il qu'on est dans ce contexte empreint de ténèbres, et dans ce contexte empreint de ténèbres, il y a cette réalité des croyantes et des croyants qui sont appelés à être une communauté priante. Pourtant, quand on le lit et qu'on le médite, ce livre, ce n'est pas toujours si évident que ça de se dire qu'on est une communauté priante et puis qu'on va pouvoir le rester de manière ferme et forte. On est souvent un peu troublé, voire happé par tout ce qu'on est en train de lire, et puis qui font écho à tout ce qu'on est en train de vivre dans notre société qui est aussi en mouvement. Et souvent on est perdu, voire même troublé, parce que les réalités décrites sont violentes et penchent plus vers les ténèbres que la lumière. Alors là, je me suis posé la question de savoir comment est-ce que nous, croyantes et croyants, qui affirmons assez avec conviction, hein, notre identité de fils et filles de la lumière, de porteurs de lumière, quelle est notre réaction face au noir ou bien face aux ténèbres? Parce que finalement, il y a pas mal de choses qui se jouent là sur notre réaction par rapport au noir ou aux ténèbres. Alors là, je me suis un peu creusé la tête. La première réaction, c'est plutôt une réaction que normalement mes enfants ont un poil dépassé, c'est la fameuse peur du noir. Je ne sais pas si vous vous souvenez, les parents, est-ce que vous avez eu des enfants où il fallait laisser une lumière dans un corridor parce que ça rassure, c'est mieux que si c'est complètement noir. Quand on se déplace dans une autre maison, généralement, il y a plus besoin de la petite lumière que chez nous, par exemple. C'est rigolo. On est dans un environnement qui est moins sécure, et on a besoin plus facilement de cette petite lumière qui vient nous rassurer, nous dire « il y a une présence ». C'est notre première réaction, puis on l'a tous encore plus ou moins un peu. Moi, j'ai fait une ou deux fois de la spéléo. Je dois dire que je n'étais pas super à l'aise d'être dans ces petits boyaux tout noirs, un peu coincés. J'avais cette même peur du noir enfantine qui revenait. On n'aime pas tellement. Hein. Puis je ne sais pas si vous avez fait aussi des fois des expériences où on est complètement plongé dans le noir, puis on nous fait naviguer en faisant confiance, soi-disant, à la personne qui est devant nous. C'est moyen. Hein. On perd un peu nos repères. On n'aime pas tellement. Il y a quand même un petit peu une peur qui est là au fond de nous. Si on est honnête, on peut toujours jouer un peu l'effort puis dire non, non, tout va bien. Mais il y a cette peur du noir. Elle existe toujours, je crois. Cette peur du noir, quand on entend des mauvaises nouvelles, quand on lit des éléments violents, des réalités qui sont terribles à décrire, on a toujours cette même peur qui peut monter. Du coup, comme on grandit puis qu'on s'adapte à ces différentes situations, on développe différentes stratégies. Et je pense qu'une des meilleures stratégies qu'on développe, c'est qu'on essaye de minimiser ou de relativiser la vigueur ou l'intensité du noir ou des ténèbres. On se dit, oh, finalement, ce n'est pas si grave que ça. Ou finalement, il y a d'autres choses. Et puis, on en vient à se dire que ces différents éléments, ce n'est pas si important que ça. Donc, finalement, avec ça, on détourne un peu l'attention. On fait comme si, ou on s'accommode du noir, des ténèbres, plutôt que de les combattre. Et cela cache souvent une peur, une honte, voire une résistance à ce que les choses soient mises en lumière. Puis là, je ne vais pas faire de la politique, mais il y a quand même plusieurs affaires qui nous secouent, que ce soit dans le monde politique ou dans le monde de l'Église. Par exemple, avec l'Église de France, ces révélations qui se succèdent dans l'Église de France actuellement, c'est un peu apocalyptique, effectivement. Et c'est vraiment tout ce monde des affaires où on minimise, finalement. Il y a du noir, de la souffrance, des ténèbres qui sont là, et on préfère minimiser, relativiser, voire, puis c'est la deuxième stratégie qu'on emploie, ignorer complètement la réalité des ténèbres. C'est tellement désagréable à voir, c'est tellement honteux qu'on fait tout pour le cacher. C'est la réaction qu'on a toutes et tous, c'est pour ça que je jette la pierre sur personne. On a tous en nous ces manières-là de fonctionner. Soit on minimise, soit on préfère carrément, avec un culot souvent assez phénoménal, ignorer ce qui se passe de mauvais. Comme on dit, on la met un peu sous le tapis, hein, je ne dis pas quoi. Et on préfère la mettre sous le tapis. Et puis on a même poussé encore plus loin le truc, c'est que cette notion d'ignorer les ténèbres, ça devient presque même une manière de penser. Et puis, c'est une manière de penser qu'on a décrit sous le terme un peu pensée positive, ou bien tous ces projets souvent qui sont un peu liés au développement personnel, où finalement, l'aspect du noir, des ténèbres, n'existe pas, puis on se concentre et on travaille, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose, sur le positif, sur ce qui va bien, sur ce qui nous pousse en avant. Mais si on parle des ténèbres, on ne sait pas comment faire, puisque c'est un non-lieu. C'est quelque chose qui n'existe pas, c'est quelque chose qui n'est pas là pour être travaillé. Donc vous voyez, on va assez loin dans cette manière de mettre les ténèbres de côté. Et puis, de l'autre côté du spectre, il peut y avoir, et ça s'observe, une forme de fascination pour le noir, une forme de fascination pour les ténèbres. Il y a tous des courants de pensée qui sont là, aussi des courants culturels, qui sont là où on se concentre vraiment énormément sur les ténèbres. Il y a des courants musicaux qui sont notamment assez doués dans ces domaines-là. Vous voyez que c'est assez vaste, hein ? Les réactions différentes par rapport à la réalité des ténèbres. Que fait la Bible ? Et particulièrement l'Apocalypse. La Bible ose décrire, et c'est désagréable, exposer et nous faire prendre conscience du noir et des ténèbres. C'est l'entier du livre de l'Apocalypse. Et c'est pour ça qu'on a de la peine à le lire et que j'ai de la peine à le lire. Ça nous dérange. On n'a pas envie d'aller là-dessus. On préfère aller sur les éléments beaucoup plus encourageants. La Bible nous encourage à regarder le noir et les ténèbres en face. Et nous avertit, et c'est Dieu qui le fait avec nous, ce combat, qu'il y en a un. Que toutes nos stratégies d'évitement, finalement, ne sont pas conformes à la volonté de Dieu. Et puis si on remplace le noir, les ténèbres par le péché, on se rend bien compte que ça devient nettement plus concret dans nos vies et que ça devient nettement plus exigeant par rapport à qui on est, aussi porteur de noir et de ténèbres. Et là, si on décide d'ignorer, de minimiser ou de relativiser, c'est un peu problématique. Et c'est en tout cas pas la volonté de Dieu. Donc notre combat, il est vraiment de le regarder en face, ce noir, ces ténèbres. Il est évidemment là pour nous faire évoluer et nous faire avancer. Et quand je vous disais que cette révélation était à prendre comme un don, ça devient nettement plus embêtant maintenant. C'est un don de Dieu qui nous est fait que de décrire, exposer et prendre conscience du noir qui est autour de nous, que d'oser regarder le noir qui est en nous et autour de nous en face. Et pourquoi c'est un don? Parce qu'il y a des promesses qui y sont attachées. Voilà le chapitre 7. « Alors l'un des anciens me demanda, « Ceux qui sont vêtus de robes blanches, qui sont-ils? D'où sont-ils venus ?» Je lui répondis, « Mon Seigneur, c'est toi qui le sais. » Et il m'en dit, « Ce sont ceux qui viennent de la grande détresse. Ils ont lavé leurs robes, ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau. C'est pourquoi ils sont devant le trône de Dieu. Ils lui rendent un culte jour et nuit dans son sanctuaire. Celui qui est assis sur le trône les abritera dans sa demeure. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif. Le soleil ne les frappera plus ni aucune chaleur, car l'agneau qui est au milieu du trône les fera paître et les conduira aux sources des eaux de la vie. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. » On a intitulé cette série « Rechercher la lumière » finalement. Où est-ce qu'elle se trouve? Pour l'Apocalypse, il est moins question d'une recherche de lumière que de prendre conscience que l'on est, en tant que croyante et croyant, dans la lumière qui nous est offerte par Dieu. C'est une perspective à poil différente. Hein. Si on regarde à notre niveau terrestre, on doit rechercher les espaces de lumière, un peu comme ces bougies que l'on recherche un peu avidement. Dans cette perspective où on se connecte au ciel finalement, puis à Dieu, notre réalité de croyante et de croyant, c'est tout faire pour rester dans cette lumière et de prendre en compte, pour nous, jour après jour, ces promesses qui nous sont offertes. Car l'agneau de Dieu, qui est au milieu du trône, nous fera paître et nous conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute larme de nos yeux. Il nous donne cette réalité-là parce que nous avons cette assurance d'être dans la lumière. Et là, c'est le point fondamental pour nous. Parce que si on prend que cet aspect de ténèbres, si on prend que cet aspect de péché, on serait complètement englouti. On n'y arrive pas. On est obligé, et c'est ça la vigueur de la foi, de compter sur cette assurance qui ne vient pas de nous, mais qui nous est vraiment donnée par Dieu, qui nous est vraiment envoyée à travers ce qu'il a fait pour nous, et cette présence qu'on a chantée, cette confiance qu'on a dans la bonté et dans le pardon de Dieu, c'est le seul moyen, chers frères et sœurs, qui nous permet de livrer ce combat face aux ténèbres. Notre première réaction humaine, c'est de se dire on l'ignore, on le minimise, ou alors on est fasciné par cela. Puis les chrétiens, des fois, on est aussi fasciné par notre péché, hein, parce qu'on est tellement en train de le regarder, de le scruter tout partout, qu'on y plonge allègrement dedans. Ce n'est pas ça que Dieu veut. Dieu, il nous veut lucide, il nous veut apte à recevoir ces paroles qui sont difficiles à entendre, parce qu'il nous sait capable, avec l'esprit qui nous a été donné, d'affronter ce combat-là. Il n'a pas dit que ce serait facile, il n'a pas dit que ce serait sans effort, mais il est sûr de notre victoire et il est sûr de notre capacité à le prendre en charge. Et c'est là qu'on doit vraiment se retrouver, puis on va pouvoir le faire à travers le repas que l'on partage, autour de ce que Dieu a fait pour nous, autour de ce que Dieu a fait pour nous sur la croix, où il a clairement affronté le monde des ténèbres et même la mort, pour que nous ayons la vie. C'est ça le message chrétien. Et ce message chrétien, il se décline de manière très très concrète dans nos existences à travers ces faisceaux de lumière. Parce qu'on est toutes et tous confrontés, qu'on le veuille ou non, à avoir du noir et des ténèbres autour de nous. Et là, on a besoin de cette foi qui nous unit tous. Et en tant qu'Église, on a besoin de cette foi qui nous unit pour continuer à faire confiance dans celui qui est la lumière et celui qui est la lumière de nos vies. Amen.